on va se quitter avec plein de belles idées comme ça. Une fois encore, il y aura avant et après le Covid, et on sent bien que les pratiques évoluent pour toujours aller vers plus de bienveillance, et c'est vraiment formidable. Olivier, ça va être le moment de la fin. On n'a pas eu beaucoup de questions, alors il paraît qu'on nous avions devancé les réponses aux questions que les personnes se posaient, c'est formidable, mais il nous en reste quand même une. Est-ce que les recherches thérapeutiques et médicamenteuses nouvelles auront un effet sur les maladies apparentées Alzheimer? Bruno Dubois nous a parlé de nouveaux médicaments, et notamment sur les démences sémantiques. Est-ce qu'il y a des choses sur lesquelles on peut répondre à cette personne qui est invitée aujourd'hui?
Oui, alors, démence sémantique, c'est un sous-groupe de ce que nous appelons les maladies frontotemporales, qui touche les lobes frontaux, c'est-à-dire c'est plutôt devant, alors que les maladies d'Alzheimer, c'est plutôt sur les côtés, hein, que ce sont les lobes pariétaux qui sont atteints. Alors, on va dire que aujourd'hui, chaque fois qu'on travaille dans le domaine de la recherche sur les maladies neurodégénératives, quelle que soit la maladie sur laquelle on travaille, on ouvre des portes qui elles-mêmes ouvrent d'autres portes et qui, quoi qu'il arrive, permettent de faire avancer les connaissances sur le cerveau, qui est, je vous le rappelle, la dernière frontière du corps humain. Il n'y a rien de plus complexe dans l'univers que le cerveau de l'homme. On en connaît grosso modo 20 à 30% du fonctionnement. Et donc, dès lors qu'on travaille sur le cerveau, on travaille sur l'amélioration des connaissances. Et il est probable que les recherches sur Alzheimer vont permettre tôt ou tard de faire avancer la recherche sur les maladies frontotemporales. Et peut-être vice-versa. Mais ce sont des processus qui, sur le plan physiopathologique, sont un petit peu différents. Et c'est la raison pour laquelle les prises en charge sont un peu différentes au niveau médicamenteux. Alors, pour conclure cette journée intéressante...
J'ai encore trois questions. Je suis désolée, mais elles arrivent. Pardon. Alors, sur les maladies à corps de Lévy, est-ce qu'on peut dire en deux mots la différence avec la maladie d'Alzheimer?
Corps de Lévy, alors c'est encore autre chose. C'est une maladie redoutable parce que, pour être très schématique, on va dire que c'est la double peine, c'est Parkinson plus Alzheimer, la maladie de corps de Lévy. Et elle a une caractéristique, c'est qu'elle s'accompagne souvent de manifestations hallucinatoires, de délires. Et les traitements habituels pour ce type de symptômes sont très difficiles à proposer parce qu'ils sont plus ou moins contre-indiqués dans ce type de pathologie. Donc, prise en charge très lourde, très douloureuse, complexe, avec un mécanisme, là encore, physiopathologique qui est un petit peu différent de celui de la maladie d'Alzheimer. Mais on avance dessus et la recherche progresse quand même un peu dans ce domaine.
Une question très pratique, que faire quand un malade est dans le déni? Comment l'accompagner au mieux? Est-ce qu'il y a des règles, des choses à faire, des choses à ne pas faire?
Quand un patient est dans le déni, c'est évidemment pas simple. Il m'est difficile de vous donner au fond une réponse un peu générique parce que, comme vous l'avez compris et ça a été dit, il n'y a pas une maladie d'Alzheimer, il y a des malades avec Alzheimer. Donc chacun va avoir son propre vécu, va avoir sa personnalité, va avoir sa prise en charge qui vont entraîner des comportements variables. Alors le déni, mon conseil, c'est qu'il est très difficile de l'approcher en frontal. Aller dire à quelqu'un qui ne veut absolument pas entendre qu'il a la maladie d'Alzheimer, qu'il est atteint de cette pathologie, habituellement ça ne marche absolument pas. La réponse, elle est de plusieurs types, mais les plus connus, c'est un, ton médecin qui t'a, le médecin chez qui tu m'as envoyé pour poser le diagnostic est un con. Je veux bien, mais je suis pas d'accord. Et puis on passe à autre chose et on veut surtout pas parler de ça. D'accord. Donc, c'est compliqué. Alors, comment fait-on? D'abord, on essaie d'analyser le pourquoi du déni. Bon, parfois on peut trouver des explications. Comme je vous le disais dans ma présentation, c'est parce que maman a eu Alzheimer que je l'ai accompagnée pendant 15 ans et que je ne vais surtout pas vivre la même chose. Bon. Ok, dans ce genre de situation, il est difficile de dire à la personne qui a un Alzheimer, tu as une maladie neurodégénérative qui s'appelle Alzheimer, mais ça va bien se passer, t'inquiète pas mon chéri. Difficile. Donc il vaut mieux, dans ce cas-là, essayer de contourner le problème. En d'autres termes, une fois que la personne est dans le déni de la maladie, on va la laisser dans le déni de cette maladie, puisque finalement c'est un mécanisme de défense. Elle a mis ça en place pour se protéger contre l'angoisse massive qu'implique cette pathologie. Et on va s'intéresser davantage aux conséquences du déni. Comment il vit son déni, comment moi je vis le déni de mon conjoint, de mon proche. Et c'est là où on peut agir. Quand une personne est dans un déni massif, voire armé contre la maladie d'Alzheimer, ce que je rencontre très régulièrement, notamment avec des enfants qui s'arrachent les cheveux parce que maman veut absolument pas entendre qu'elle a un trouble et refuse toutes les aides qu'on lui propose, comment fait-on ? Qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, le pire des scénarios, c'est on fait rien. On peut rien faire. Ce n'est pas la peine de répéter en boucle « Maman, t'as Alzheimer et on va t'imposer coûte que coûte une garde malade » parce qu'elle ne veut pas en entendre parler et elle va être odieuse avec la garde malade et donc s'arranger pour qu'elle parte. Donc il faudra à ce moment-là essayer de s'organiser pour s'approcher petit à petit d'elle, la rendre un petit peu moins farouche avec éventuellement la femme de ménage qui venait une heure par semaine, qui maintenant viendra une heure par jour, sous prétexte de faire ceci, cela, petit à petit, on va l'aider. Et puis, progressivement, essayer d'attendre le moment propice où, à un moment donné, maman va baisser la garde, va se rendre compte, consciemment ou non, que ce déni n'est pas possible. On ne peut pas continuer à juste dire « tout va bien ». Et elle va tendre la main. Parfois, c'est au décours d'une hospitalisation pour fracture du col du fémur. La maman rentre à la maison, claudiquante, ça devient compliqué de vivre toute seule à la maison, et c'est là où on va lui dire, peut-être qu'on va t'aider. Et elle acceptera. L'autre approche, c'est, on ne va pas parler de tes troubles de la mémoire, mais par contre, tu dors très mal. Peut-être qu'on peut t'aider pour tes problèmes de sommeil. Ah oui, tu as raison, c'est vraiment difficile. Je me réveille tous les matins très très tôt et je suis épuisé dans la journée. Allons voir un docteur, peut-être que lui pourra t'aider. Le docteur, on le met dans la combine et sous prétexte de parler du sommeil, on parle d'autre chose. Donc vous voyez, il y a plein d'approches différentes pour essayer de contourner ce problème du déni. Mais une chose que je sais d'expérience, c'est qu'il faut le plus souvent éviter l'approche frontale, elle ne marche absolument pas.
Ne pas forcer. Alors, on a une question sur les recherches entre santé et architecture. Peut-être que la personne qui pose cette question pourrait se rapprocher d'Audrey et Joël qui ont travaillé sur le sujet. Je pense que ça pourrait être intéressant. Un témoignage
sur... Je peux juste, Agnès, juste dire un truc par rapport à ça qui est quand même très intéressant. C'est qu'on voit très bien aujourd'hui, quand on est amené à intervenir dans les EHPAD, et on voit que les EHPAD, vous en avez qui arrivent à gérer assez bien des malades Alzheimer difficiles et d'autres beaucoup moins bien. Et ce n'est pas toujours une question de personnel, ce n'est pas toujours une question de management, ça peut être tout simplement une question d'architecture, tout simplement. Donc, l'architecture des EHPAD est absolument essentielle pour pouvoir apporter un maximum d'aide à nos patients désorientés. Un tout petit exemple, j'interviens régulièrement dans une EHPAD qui dépend du groupe Elena Santé, qui s'appelle la Villa d'Épidore, qui a été conçue dès le départ, il y a 30 ans, pour accueillir des malades d'Alzheimer. Et on voit très très bien qu'il y a des unités qui sont beaucoup mieux adaptées que d'autres pour certains patients. Par exemple, on sait qu'au rez-de-chaussée, c'est une unité ouverte, il y a des allées, des venues, on est sur le jardin, donc c'est a priori plutôt bien. On se dit, c'est là que maman devrait aller. Mais en réalité, si maman est une dame très angoissée, grande déambulatrice, qui a du mal à se maintenir en place, eh bien, il vaut beaucoup mieux qu'elle aille au premier étage, qui est une unité fermée, mais qui est très vaste, où il y a plusieurs unités, où on se déplace dans des longs couloirs, mais où il y a beaucoup moins d'allées et venues, il y a beaucoup moins d'interactions avec l'extérieur, et où finalement, maman sera beaucoup mieux. Ça paraît contre-intuitif au départ, mais en réalité, on voit dans les faits que c'est comme ça que ça marche et que c'est beaucoup mieux pour elle. Donc vous voyez, l'architecture est absolument essentielle quand on conçoit une EHPAD, un EHPAD pour accueillir nos patients Alzheimer.
Et donc également quand on choisit le lieu de vie de son proche et qu'il faut, voilà, ça doit être un critère important.
C'est un critère très important.
Puis un dernier témoignage, pendant le Covid, je n'ai pas pu accompagner mon mari dans un service d'urgence suite à une chute. Il était en phase d'aphasie, il ne pouvait ni s'exprimer, ni comprendre. J'ai l'habilitation familiale, je peux prendre des décisions à sa place. Les parents d'enfants accompagnaient leurs petits-enfants ou leurs enfants. Pourquoi pas les aidants? On sait que ça a été une période vraiment très difficile, un gros raté, un gros loupé de ne pas pouvoir accompagner nos proches à l'hôpital, dans les EHPAD. Et on espère que les leçons auront été tirées et que désormais, on saura mieux réagir, protéger les uns et les autres, mais arrêter de couper ce lien absolument indispensable. On en est vraiment tous convaincus ici.
Oui, oui, on en est convaincus. Je pense qu'on a appris au fur et à mesure, on a fait ce qu'on a pu, on peut toujours faire mieux, mais moi, je dis une chose. Au début de la pandémie, on applaudissait beaucoup les soignants dans les hôpitaux, qu'on voyait à la télé à longueur de journée, qui étaient bottés de pieds en cap, qui avaient absolument tout le matériel pour se protéger. Et on oubliait qu'au même moment, vous aviez des dizaines de milliers de soignants dans les EHPAD où il y avait 50% des décès quand même, qui eux allaient tous les matins la peur au ventre, avec parfois à peine un masque, parfois pas de gel du tout, ne sachant absolument pas comment se débrouiller, et qui y allaient quand même.
Et que certains y ont laissé la vie, hein, on le sait.
Absolument, voilà. Certains y ont laissé leur vie.
En tout cas,
et
ceux-là,
moi, je dis chapeau. On les a pas assez applaudis,
mais
je peux
vous dire
chapeau.
Ouais. Mmh. Mmh. Le mot de la fin.
Mot de la fin. Je pense que vous avez, j'espère, apprécié ces différentes interventions qui ont fait traverser tous les champs de la maladie d'Alzheimer, que ce soit la recherche à un niveau théorique, mais aussi à un niveau pratique, puisque la bonne nouvelle, comme l'annonçait Bruno Dubois, c'est que il y a quelques jours, on a eu une annonce tout à fait spectaculaire. Et je me souviens, justement, j'étais à une conférence ce jour-là, et quand on nous a annoncé cette nouvelle, j'en avais la chair de poule, parce que ça fait 30 ans que je soigne des malades d'Alzheimer, et dans cette salle, je suis sûr qu'il y en a d'autres comme moi. Et ça fait 30 ans qu'on attend cette nouvelle, qu'on attend de pouvoir proposer un médicament spécifique de cette pathologie. Alors évidemment, ça n'est qu'un début. Le médicament, il est très controversé, il va être compliqué à proposer, etc. Mais peu importe, c'est le début de quelque chose d'important. C'est le début, si vous voulez, d'une manière d'accéder au fond du tunnel à la lumière qui est là-bas. Et j'adore cette phrase que je prononce souvent, qui est, paraît-il, de Confucius, qui disait « Mieux vaut allumer une chandelle que de maudire l'obscurité ». Je crois que là, on a une chandelle, vraiment, et on va pouvoir l'approcher progressivement. Donc on a parlé de la recherche, on a parlé des médicaments, mais on a aussi abordé le problème de la génétique, qui est une question qu'on se pose tous à longueur de temps, dès lors qu'on a un proche atteint de cette pathologie, et pourquoi elle, pourquoi pas moi, pourquoi elle et pas sa sœur. Donc je pense qu'on vous a apporté quelques réponses, mais on vous a montré que finalement, heureusement, il n'y a pas une fatalité avec cette pathologie, et que même si on est porteur de chaînes, de gènes qui prédisposent, beaucoup va dépendre de nos comportements. Et que si on adopte les bons comportements, eh bien on pourra retarder pendant des années cette pathologie, et peut-être même décéder avant, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Donc on n'est pas passif, il n'y a pas une fatalité par rapport à Alzheimer, on peut même, nous, chacun d'entre nous, si on est inquiet par ça, par nos comportements, eh bien, avoir une attitude vertueuse, une attitude préventive vis-à-vis de cette pathologie. Après, on a eu des approches qui étaient plus pratiques, qui étaient vraiment intéressantes, à la fois le législateur, qui nous offre des possibilités pour améliorer le quotidien de nos patients, et ça c'est important. On a vu les écoutes, au téléphone. On a vu ces prises en charge très intéressantes, très enrichissantes au domicile. Tout ça, ça indique une chose, c'est que cette maladie, elle mobilise énormément d'énergie. Cette maladie, elle traverse énormément de domaines, de champs de compétences. Et je pense que, quel que soit eh bien, le quotidien, il y a quelque chose à faire. Et j'aimerais conclure par juste un petit appel. On vous a sollicité pour être éventuellement bénévole, mais vous n'avez pas tous cette vocation. Mais sachez qu'on est dans un combat planétaire. Comme je vous le disais en préambule, Alzheimer, c'est une pathologie qui se développe à grande vitesse, puisque le premier facteur de risque, c'est l'âge, et que nous sommes dans des sociétés vieillissantes, et qui laisse au fond un petit peu indifférent le pouvoir public et le public en général. On ne se rend pas compte du danger énorme que représente Alzheimer pour nos sociétés. C'est un nombre de malades qui double tous les 20 ans, et on ne pourra pas tolérer effectivement ces millions de malades sur Terre si rien n'est fait. Donc il faut sortir de cette torpeur, il faut bouger, il faut faire quelque chose. Il faut être les petits porteurs d'un combat planétaire. C'est ça qu'on attend de vous aujourd'hui, c'est ça qu'on aimerait, si vous voulez, en sortant, que vous compreniez. C'est que chacun, à notre niveau, on peut faire bouger les lignes. En étant auprès des malades, en parlant de cette pathologie, en étant au fond aussi une aide pour une association, pour les aider dans le quotidien ou pour collecter des fonds. Voilà. Merci à tous pour votre attention. Je vous attends l'année prochaine plus nombreux. J'espère qu'on n'aura pas ces barrières qui nous sépareront et que vous pourrez venir en grand nombre. Je vous souhaite une excellente année et qu'on puisse vous apporter l'année prochaine des nouvelles encore plus positives sur cette pathologie. Voilà. Merci.